sur la religion matérialiste du bonheur terrestre par la consommation et de la satisfaction toujours renouvelée des désirs.
Tension, parasites et courants vagabonds. Pour donner la parole à des personnes en lutte contre l'uniformisation de ce monde, le bétonnage des terres et les diverses formes de domination qui s'exercent sur nous au quotidien.
Mais vous êtes fous ! Oh oui ! Mais vous êtes fous !
Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur l'émission de Tension, Parasites et Courants Vagabonds qui sera consacrée au contrôle social. Pour cette troisième émission, j'ai le plaisir d'accueillir Morgane qui a fait l'émission avec moi.
Bonjour à tous les auditeurs du Saint-Africain.
Avant, c'était les sociétés de souveraineté avec leur monarque, leur royaume, la toute-puissance des rois et des seigneurs. On prélève plutôt qu'organiser la production. On décide, oui ou non, de la mort d'un sujet. Puis, au cours du XVIIIe siècle, et ce, jusqu'au XXe siècle, les sociétés disciplinaires apparaissent, se répandent, pour devenir la nouvelle norme et organiser la société. Ainsi, la vie de l'individu se construit et évolue à travers un enchaînement de milieux clos. D'abord la famille, puis l'école, puis la caserne, puis l'usine, ou le bureau. Parfois l'hôpital, éventuellement la prison. Enfin, aujourd'hui, nous embrassons les sociétés de contrôle, et cela à travers un long processus qui semblerait avoir débuté depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, les mots d'ordre de la société disciplinaire s'effacent pour laisser au mot de passe de la société de contrôle. Ce mois-ci, donc, Tension, Parasites et Courants Vagabonds vous propose de porter un regard sur les sociétés de contrôle et cette notion de contrôle social. Mais tout d'abord, débroussaillons un peu ce fouillis.
Alors, qu'entendons-nous par contrôle social ? La notion de contrôle social, elle est apparue dans les années 1920, avec les sociologues de l'école de Chicago. On appelle contrôle social l'ensemble des moyens et des pratiques, formelles ou informelles, qui sont mises en œuvre au sein d'une société ou d'un groupe social pour que ses membres agissent en conformité avec les normes dominantes en vigueur. Alors, une fois que ce cas de figure est établi, que se passe-t-il ? Soit les individus adhèrent de manière réfléchie à la règle en la considérant comme légitime, soit les individus adhèrent de manière inconsciente, ils agissent par habitude et sans réflexion sur le sens de la norme. Soit les individus n'adhèrent pas, refusent, contestent, s'organisent collectivement, se révoltent et ainsi endossent un rôle qui varie selon les appréciations de chacun. Ainsi, pour certains, ils deviennent déviants, pour d'autres, ils deviennent résistants et entrent en lutte. Ce sont ces personnes-là que nous avons décidé de rencontrer et de faire parler. Ce sont à travers leurs expériences que nous allons tenter de mieux saisir comment se déploie cette société de contrôle. Pour appréhender une thématique aussi dense et complexe que le contrôle social, faire parler ceux qui s'y frottent et ceux qui s'y confrontent nous a semblé le plus judicieux.
Ainsi, le micro de Tension, Parasites et Courants Vagabonds s'en est allé se balader à la rencontre des assistantes sociales enragées du 9-3 qui, depuis 2009, s'organisent pour lutter contre l'informatisation de leurs services, ainsi que contre les déviances que cela implique. Par la suite, nous ferons entendre les voix de paysans et d'éleveurs de brebis du Tarn, qui sont entrés en résistance depuis 2010 au sein du collectif Faut pas pucer. Enfin, nous irons faire un tour du côté de chez nous, à Saint-Afrique justement, où s'est organisée l'une des plus fermes résistances locales à la mise en place du fichier bas élèves. Des parents d'élèves nous témoigneront de cette lutte toujours d'actualité.
Pour les travailleurs sociaux, pris en tenaille entre la relation de confiance qu'ils doivent aux usagers et la gestion mécanisée qui leur est imposée, tout a changé. Le secret professionnel, gage de confiance entre aidants et usagers, devient partagé et accessible à presque tous les services d'État. Tout élément peut être partagé et accessible dans les notes des préfets, procureurs, inspections académiques, centres sociaux, protection de l'enfance. De quoi faire remonter encore plus de données sociales qui échappent aux usagers en trahissant le secret professionnel. Les entretiens sont déjà minutés, et comme il fait rentrer les informations dans l'ordinateur, l'écran s'interpose dans la relation humaine. L'orientation automatisée transforme les personnes en simples opérateurs de saisie. Parmi eux, certains résistent. Radio Saint-Afrique vous emmène en Seine-Saint-Denis à la rencontre des assistantes sociales enragées du 9-3.
Ce blog, qui s'appelle donc Rajaes 93, et en sous-titre, c'est les assistantes sociales enragés, mais que nous sommes, on a décidé de créer un lieu, un espace pour nous exprimer, et puis pour faire connaître un petit peu ce qui se passait, que ce soit vis-à-vis de notre métier, de la perte de sens que l'on vit par rapport à notre métier, notre déontologie, ce qui se passe aussi par rapport à notre employeur et ses injonctions. Et c'est les assistantes sociales et c'est la rage des assistantes sociales du peuple. Ce lieu d'expression, on le voulait justement pour dénoncer ce qui impacte les gens que l'on reçoit. L'informatisation, les statistiques, c'est que ça a des conséquences d'abord sur les personnes qu'on reçoit. Et donc à partir du moment où il y a un problème entre notre déontologie que l'on doit d'abord aux gens que l'on reçoit, parce que notre code de déontologie, celui des assistantes sociales, il existe, dont des règles de confidentialité, de respect, de non-communication, d'information sur l'intimité, la vie privée des personnes que l'on reçoit, si c'est effectivement à des fins qu'on ignore. Donc effectivement, l'informatisation, les statistiques d'abord, c'est surtout recueillir des données chiffrées et de plus en plus, sur des personnes, mais sans qu'on sache à quoi ça va servir.
Bah, ce qu'on imagine, c'est que d'abord, ça vient alimenter, et ça c'est une réalité, hein, ce qu'ils appellent leur rapport annuel de performance. Avant, on parlait de bilan d'activité. Aujourd'hui, on parle de rapport annuel de performance. Et nous posons la question de qu'est-ce que la performance pour un service social en particulier et un service public en général. Ça sert à alimenter donc leur rapport annuel de performance. Et nous, on sait que ça va leur permettre de faire une moyenne du nombre d'usagers, comme ils disent, par assistante sociale, du nombre de problématiques par assistante sociale, du nombre d'interventions pour ensuite répartir les dossiers. Mais nous, on dit que les gens, ce n'est pas des dossiers, que ce n'est pas comme ça. En fait, ce qu'on dit surtout, déjà, c'est que le travail social, il ne se mesure pas. Pour l'informatisation, les gens ne savent pas qu'on rentre autant de données sur eux. Et ce qui est encore pire hein, dans le cadre de l'informatisation, c'est que même les comptes rendus d'entretien, pour la plupart, sont informatisés. Ça veut dire que dans un service social, hein, tu as la secrétaire et n'importe quelle AS hein, du même service qui peut aller dans le dossier de la personne.
Est-ce que vous pouvez expliquer en fait comment ça s'est mis en place ou installé l'informatisation dans vos métiers ?
D'abord, c'est quelque chose de récent. Chez nous, aujourd'hui en Seine-Saint-Denis, il y a 10 services sociaux informatisés. Ça veut dire que le reste des services sociaux sont quand même un tant soit peu informatisés. C'est-à-dire que sont apparus depuis 2008 des ordinateurs dans tous les bureaux d'un service social, ce qui n'était pas le cas jusque-là. C'est-à-dire jusque dans le bureau d'une assistante sociale. C'est un réel bouleversement parce que faire apparaître un outil informatique, un écran, un ordinateur dans un bureau d'assistante sociale, c'est d'ores et déjà le poser comme étant un tiers dans la discussion qu'on a avec la personne. On est censé être face à un ordinateur et derrière l'ordinateur, la personne. Ça a commencé déjà effectivement par de l'équipement informatique disséminé un petit peu partout. Et cet outil informatique dans le bureau de l'assistante sociale voudrait que l'assistante sociale note tout ce qu'elle fait sur cet ordinateur. C'est centralisé. Mais c'est centralisé où ? C'est centralisé au niveau des services généraux, des services centraux. Et donc tout ça fait qu'il y a énormément de choses qui sont recueillies.
Le discours de la direction, c'était ça va améliorer le service rendu aux personnes, ça va faciliter les stats, puisque du coup, comme vous allez le remplir directement, vous n'aurez plus à faire les stats annuelles que tu fais à la fin de l'année normalement.
Donc à chaque personne reçue correspond à un dossier. Donc d'abord, la personne reçue, elle a un nom. Donc ce nom-là correspond à un dossier qui lui-même porte un numéro. C'est nominatif. Une des grandes défenses de l'employeur et de l'administration, c'est de dire « mais non, pas du tout, le secret est tout à fait garanti », ce qui est tout à fait faux et ce qui a même été confirmé à un moment donné par les services informatiques qui gèrent ce logiciel et qui disaient que effectivement les croisements étaient possibles.
Il y a ce qu'on appelle l'archivage qui est fait régulièrement. Donc quand une personne n'a pas pris contact avec le service depuis plus de 2 ans, son dossier est détruit. Et ça, du coup, c'est aussi le droit à l'oubli pour les personnes. Or, depuis que Cosmos existe, en fait, tous les dossiers sont conservés, ils ne sont pas détruits.
Ils veulent absolument, en tout cas c'était le but, dès le début, c'était de généraliser ça aux 32 services du département de la Seine-Saint-Denis.
Savoir comment vous êtes organisé du coup entre vous et quelles réponses vous avez donné du coup à Cosmos et à votre hiérarchie.
C'est grâce aux assemblées générales qu'on a eues régulièrement entre nous, assistantes sociales, syndiquées, non syndiquées, qu'on a commencé à porter la réflexion. C'est-à-dire que c'est un cheminement. Au départ, on a lancé un boycott des statistiques, papier et informatique. Alors on disait déjà que ça reflétait pas notre travail.
Juste pour expliquer rapidement aux auditeurs, on est dans un service social, mais on est soumis, comme dans le privé, à rendre des chiffres en fait annuels. Ces statistiques-là, c'était une fois dans l'année, où on nous demandait de remplir effectivement des grilles qui étaient construites, produites par une administration, avec soi-disant concertation avec des gens du métier, que ce soit des assistantes sociales ou secrétaires. Mais finalement, ce qui prévaut, c'est surtout effectivement l'intérêt de l'administration. En 2010-2011, on a lancé ce mouvement du boycott des statistiques. C'était aussi pour nous un moyen de faire pression, mais en fait, ce boycott des statistiques, ça voulait dire que chaque assistant social dans son service devait se positionner sur le fait d'accepter ou pas de remplir ses grilles annuelles. Donc il fallait rendre pour chaque famille des statistiques. C'était que chacun dise « bon, je suis d'accord ou pas pour les faire ». Donc il se trouve que dès la première année...
2/3 des services ont boycotté.
Donc, ce qui est pas mal du tout. La deuxième année, ça a été aussi suivi. Et on en est à la troisième année.
On voit bien par rapport aux rencontres qu'il y a avec la direction que c'est un vrai problème pour eux. Il y a beaucoup de gens qui renvoient sur le fait que c'est moins de circonscriptions qui boycottent, mais en même temps, c'est largement suffisant pour les mettre en difficulté.
C'est moins parce qu'effectivement, il y a eu des pressions, énormément de pressions sur les équipes et à titre individuel. C'est-à-dire qu'il y a des menaces. Menace de sanctions cette année également, parce que le but, c'est aussi de nous faire reculer là-dessus. Parce que selon eux, c'est extrêmement important pour montrer ce qu'on fait dans nos métiers, et c'est extrêmement important pour garder les moyens que l'on a de travailler. Sachant que nos métiers, on est en train de les perdre du fait même qu'on nous demande effectivement de recueillir ces statistiques-là, et qu'on informatise un métier comme le nôtre. Donc c'est assez contradictoire. Et deuxième chose, les moyens, on les a de moins en moins. Donc ils ne répondent pas à la baisse de moyens, ni effectivement à la perte de sens. Mais pour eux, les statistiques semblent être la solution à tout ça.
Alors bien sûr, ils disent qu'on doit rendre des comptes. Enfin, on doit rendre compte. Enfin, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on est tout à fait d'accord pour rendre compte de notre travail. Effectivement, on est payé par le Conseil général, mais on n'est pas d'accord pour rendre des comptes, en tout cas tels qu'ils nous le demandent.
Alors aujourd'hui, dans le secteur social, on entend de plus en plus parler de management. Qu'est-ce que le management? Est-ce que c'est approprié au secteur social? Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Enfin, c'est une nouvelle gestion. qui nous arrive chez nous comme ailleurs, le nouveau management public, bah déjà tenter de mesurer notre travail. Multiplier les grilles et les items de ce qu'on remplit, parce qu'ils s'imaginent qu'en multipliant le nombre de cases à cocher, ils vont pouvoir voir exactement ce qu'on fait comme travail. L'objectif, ça va être aussi de rationaliser. On rentre dans une logique purement gestionnaire, où on n'a plus des missions qui seraient de conseiller, d'orienter, d'accompagner des familles, mais d'intervenir dans un champ précis.
Battez aussi pour que le Conseil général réquisitionne des logements, des bâtiments vides pour mettre à disposition comme logements. Qu'est-ce que vous pensez du coup des mouvements, des personnes qui prennent l'initiative de se réapproprier des logements vides ?
Alors, c'est exactement la conclusion d'un dernier écrit qu'on vient de faire là, après avoir rencontré le ministère du Logement. Ces gens-là nous ont reçus et en fait, ce qu'il en ressort, c'est que on demande à des personnes qui galèrent d'hébergement en hébergement et qui n'ont pas de logement depuis des années d'attendre encore un petit peu, hein, parce qu'il faut faire tout ça prend du temps. Changer les lois prend du temps, réquisitionner des immeubles vides prend du temps, sauf qu'il y a des gens qui attendent depuis 25 ans comme ça. Donc du coup, nous, bien évidemment, la réquisition des logements vacants et des immeubles vacants, c'est quelque chose qu'on défend. Et puis, on a de cesse d'entendre, mais c'est compliqué de réquisitionner. Alors nous, on a poussé dans les retranchements le président du Conseil général pour qu'il défende effectivement la réquisition des logements vides. On lui a demandé d'intervenir auprès du préfet de Seine-Saint-Denis pour qu'il demande effectivement également la réquisition. Ces gens-là répondent toujours la même chose, c'est compliqué. Donc bien sûr qu'on défend ça, bien sûr que les collectifs qui réquisitionnent et qui occupent des logements vides, nous on est complètement solidaires de ce qui se fait, que ce soit en région parisienne, à Paris ou en province comme à Toulouse ou ailleurs, ou à Nantes. Effectivement, dans le fait qu'on a conclu cet écrit en disant qu'il était beaucoup plus utile de réquisitionner un bâtiment vide que d'attendre effectivement que le ministère ou que des administrations s'en chargent.
Et nous, en tant qu'usagers des services sociaux, souvent on vient vous voir, on nous demande tout un tas de papiers et on sait jamais, on comprend pas tout le temps pourquoi tous ces papiers. Et parfois, c'est vrai qu'on est là un peu désemparés face à vous, assistantes sociaux.
Alors, c'est tout à fait vrai, dans le sens où de plus en plus, en fait, pour obtenir de moins en moins de choses, même des choses qui sont de l'ordre du droit, on demande de plus en plus de justificatifs aux gens. Quand je dis « on », je dédouane pas les travailleurs sociaux. C'est que le « on », ce sont les administrations derrière, c'est toute une logique qui est à l'œuvre. Et la logique qui est à l'œuvre, c'est que pour faire appliquer des droits, on demande déjà des devoirs aux gens. Les abus des administrations, et il y en a pléthore des abus, que ce soit du côté de la caisse d'allocation familiale ou que ce soit effectivement du côté du pôle emploi ou ailleurs, il y a pléthore d'abus qui font que, effectivement, des personnes qui travaillent dans ces institutions-là et qui ne sont en fait que les véhicules de ces demandes, demandent aux usagers des justificatifs. Nous, par exemple, je vais prendre juste ces exemples-là, quand les personnes viennent nous voir et qui sont complètement déboussolées parce qu'on les a renvoyées d'une administration à une autre et qui ne savent plus quoi faire, parce qu'ils ont fait 36 000 allers-retours à la CAF, à la Sécu ou au Pôle emploi. On leur renvoie des courriers incompréhensibles. Figurez-vous que nous, on reçoit des personnes dont nous, travailleurs sociaux, assistantes sociales de métier, nous ne comprenons pas la teneur des courriers, dont on s'aperçoit que les demandes sont abusives. Donc notre travail d'assistante sociale, et ça c'est un appel à toutes les assistantes sociales de ce pays, et celles qui le font, bah, qu'elles continuent à le faire comme ça, et celles qui ne le font pas, qu'elles se posent bien la question par rapport à leur déontologie, parce que la déontologie dit justement on n'a pas le droit d'apporter des éléments de contrôle sur les gens. Les métiers qu'on exerce, c'est en lien direct avec les personnes qu'on reçoit. On ne peut pas avoir de court-circuitage. Concrètement, ce que ça change tout. Ça change tout. Quand on est dans des métiers, que ce soit dans la santé, que ce soit effectivement dans le social,
dans l'école,
que ce soit à l'école, ça change tout simplement la relation qu'on va avoir avec l'autre personne. Et moi, je le sens dans les entretiens que je fais avec les personnes. À quel moment, effectivement, on commence à rentrer dans une relation qui est une relation de confiance, où les choses de plus en plus se disent. Mais se disent librement, ce n'est pas un interrogatoire. Mais pour ça, les personnes qui viennent et qui sont reçues et qui sont assises là ont besoin d'avoir une attention constante. Pas quelqu'un rivé sur son écran, oui.
Malgré ces nouvelles pressions, ces nouveaux dispositifs qui cadrent un peu votre travail, est-ce que vous trouvez un peu prise pour préserver justement des libertés ou du sens dans votre travail et quelles sont vos perspectives de lutte ou de résistance ?
C'est une très bonne question parce que partout où il y a des résistances, où les gens sont en lutte, où les gens voient bien qu'il y a des choses qui tournent pas rond, on va le dire comme ça, et essayent à leur échelle de mettre des freins, en fait.
Renvoyer aux institutions qu'elles ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi, parce que si en face, elles ont des gens conséquents, ce que nous sommes, les choses ne se passent pas comme ça. Et malheureusement, je pense que nous ne sommes pas assez offensifs, en règle générale, syndicats, non syndicats d'ailleurs, pour veiller au respect de la loi informatique et liberté.
Monsieur X, consommateur de services sociaux, et vous êtes assistante sociale derrière, employée par effectivement la firme Conseil Général 93, qui vous a déjà mis en place la petite grille à remplir. Donc vous avez monsieur X ou madame Y qui vient vous dire qu'elle a un problème de logement, et ben vous vous mettez face à votre ordinateur et vous lui dites ce qui a marqué sur votre ordinateur. Nous, il nous semble qu'on est à une période charnière en Seine-Saint-Denis, parce qu'on est dans un département qui est un lieu de résistance, qui l'a toujours été, parce que justement on est à une période où l'informatisation est entre guillemets au point mort, qu'on maintient un boycott des statistiques pour dire on ne veut pas que vous mesuriez notre travail comme vous souhaitez le faire, et que c'est maintenant que ça joue. C'est maintenant que ça joue. Si on arrive à tenir effectivement sur ce mouvement-là le plus longtemps possible, c'est pour essayer de faire en sorte que ça recule. Ça peut reculer. Tout comme ils ont envie d'avancer, ça peut tout à fait reculer.
Et puis peut-être pour conclure aussi, c'est vrai qu'ils tendent de plus en plus à individualiser. Et ce qui fait vraiment notre force, c'est d'être un collectif. Alors parfois plus ou moins nombreux. Mais en même temps, de discuter ensemble, d'être ensemble. D'abord, ça nous permet d'alimenter notre réflexion. Et puis de ne pas être seul. Parce que je crois que lutter seul, c'est à peu près impossible.
La lutte des assistantes sociales, la lutte des éleveurs, la lutte des médecins psychiatres, la lutte des métiers du livre et toutes ces luttes et des instituteurs de l'éducation nationale, toutes ces luttes qui ont en commun de dire nous, on aime faire notre métier comme on sait le faire, comme on a appris à le faire et comme on aime le faire. On veut continuer à travailler avec les gens, avec les enfants, avec les patients, avec les moutons, avec les brebis, comme on sait le faire. Vous voulez changer notre savoir-faire. Nous, on ne veut pas. c'est pas à vous de décider là-dessus, et que en plus on ne veut pas que ce soit d'autres, des tiers, des administrateurs qui réfléchissent à notre place. On a effectivement notre propre façon de penser, on veut la garder. Et derrière tout ça, il y a un enjeu fondamental de est-ce que effectivement on garde une liberté, la marge de manœuvre, c'est surtout une liberté. Est-ce qu'on a envie de garder cette liberté de penser?
L'uniforme double, triple, trouble, incolore, informe. Elle s'immisce en tout, se mêle de tout, se ressent partout, centrale, sans bruit, sans rien d'écrit, sans aucun parfum, de la moindre gâchette, parfois même avec des talents de poète. La meilleure des polices demeure inégalable. Dans l'art de tous nous mettre à table, tous en place, tous remis en cage, sage, sans effusion ni rage, aucun usage, d'aucune trique, d'aucun bracelet à serrure métallique. La meilleure des polices n'extorque pas de renseignements, elle ne gâche pas son temps, des heures durant au fond d'un poste puant à faire couler le sang du dernier schlag échoué en cellule de dégrisement. La meilleure des polices chasse sur les terres, du paradis sur terre, qu'elle vend clé en main, où on connaît le moyen de procurer l'envie de rien, la peur de tout, l'effroi de la joie, l'angoisse du chagrin. La meilleure des polices, c'est tout ce qu'on te prend, tout ce qu'on te laisse, tout ce qu'on tue en toi, tout ce qu'on te mâche, tout ce qu'on crache, tout ce que tu bectes pour garder le goût de moisir à crédit dans un putain de trou. Que tu bectes pour garder le goût de moisir à crédit dans un putain de trou. Tout ce que tu bectes pour garder le goût de moisir à crédit dans un putain de trou. La meilleure des polices, c'est ton taf, ta télé, tes crédits, tes anxiolytiques, neuroleptiques, antidépresseurs et tout ce que tu prends pour pleurer moins fort la nuit. La meilleure des polices, c'est tes sourires forcés, c'est tes retenues sur salaire et le découvert avant la fin de la semaine. C'est la peur de faire un pas, puis deux, puis trois, parce qu'enfant, on t'a dit que t'étais une merde et que t'as fini par le croire. La meilleure des polices, c'est tout ce qui te fait marcher droit, avec ton propre consentement, sans jamais oser montrer les crocs, quand bien même on te propose de t'enculer. Tu pètes pour garder le goût. La meilleure des polices, c'est quand les pauvres savent rester à leur place, sans besoin de les matraquer, de leur coudre la mâchoire, ou de les mettre au cachot. La meilleure des polices, c'est ce qu'on apprend de mieux, du berceau au tombeau.
Le 6 janvier 2012, nous avons eu l'occasion de rencontrer les membres du collectif Faut pas pucer mémé, lors d'une rencontre aux alentours de Gaillac. Les membres de ce collectif, éleveurs ou pas, s'opposent farouchement à l'identification électronique en général. Lors de cette assemblée, il a été question de sujets concrets, tels que l'organisation solidaire des éleveurs, qui refuse d'adopter les puces RFID pour leur cheptel. Comment répondre aux sanctions et aux contrôles pesants? Anticiper ces derniers et ne pas se retrouver en position de faiblesse quand elles s'appliqueront.
L'obligation d'insérer une puce RFID dans la boucle de leur brebis les a amenés à se questionner plus largement sur leurs conditions de travail, sur leur vie d'agriculteur. Leur dépendance aux aides et la lourdeur administrative auxquelles ils sont confrontés vient transformer leurs pratiques. Ces agriculteurs ne veulent pas être derrière un ordi, mais bel et bien avec leurs bêtes. Nous laissons maintenant la parole à ces deux éleveurs de brebis dans le Tarn.
Quand on réfléchit à la question, et au départ, moi, il y avait cette histoire de puce électronique sur les brebis. Au départ, je me suis dit, ils rajoutent un truc, mais j'ai pas une troisième boucle à poser. Je me suis presque dit ça comme ça. Et puis, je me suis dit, quand même, une puce électronique sur la brebis, il y a quelque chose qui me chiffonne, mais je savais pas trop quoi. Donc, c'est au fur et à mesure que tu t'assois et que tu réfléchis pourquoi du comment, que tu discutes avec tes copains, tes voisins sur ce qui te dérange, que tu éclaircis de plus en plus ce que tu fais dans ta vie, pourquoi tu le fais, qu'est-ce qui te plaît, où c'est que ça fait mal. Et au fur et à mesure, je me suis aperçue que la puce, c'est pas qu'une partie émergée de l'iceberg, mais c'est tout ce qui va avec que je conteste moi aujourd'hui. Donc c'est au fur et à mesure de où j'en avance moi dans ma tête, et effectivement, de se sentir plus costaud avec les autres. Parce que moi, au départ, refuser un contrôle, la première chose que je me suis dit non. C'est parce que l'administration en face, elle peut pas faire comme avec un individu tout seul, comme elle peut le faire avec un groupe, quoi. Un groupe de pression, qui est quand même là pour mettre la pression et pour créer un semblant de rapport de mini rapport de force. Rien que le fait même de ne pas refuser le contrôle, mais d'accueillir le contrôleur à plusieurs, je pense que le rapport de force est complètement différent. Moi, ça m'est arrivé de me faire contrôler avec 5 contrôleurs, quoi, d'un coup. Et je suis pas la seule. Alors quand t'as ça qui te déboule, qui commence de 9h le matin et qui finit à 3h l'après-midi sans avoir mangé, tu te dis merde, il y a quelque chose qui va pas, t'es pas à l'aise, quoi.
Nous, on a fait ça un peu systématiquement là depuis quelques temps. Donc quand il y a un contrôle, il y a 4 ou 5 personnes qui sont là. C'est quelque chose qu'on peut appliquer à n'importe quoi, hein, un contrôleur SAF, un contrôle qui n'a rien à voir avec l'agriculture. Alors la règle, c'est quand c'est un peu bricolé, c'est que c'est celui qui est en cause qui fixe les termes du soutien, quoi. C'est-à-dire on dit rien, on écoute, on emmerde le mec, enfin voilà. Et donc déjà ça sort un petit peu, voilà, t'es un peu moins un sujet, quoi, t'es un peu moins quelqu'un de méprisable, puisque déjà t'es plusieurs, et le comportement des contrôleurs n'est pas le même, c'est-à-dire qu'ils sont un peu plus sur leur garde, voire carrément mal, quoi.
Moins hautain.
Voilà, ils sont... Alors, il y a une diversité, on a vu ce matin des contrôleurs. Dans les contrôleurs, ça peut être des gens qui sont en intérim à moitié, qui ne comprennent pas grand-chose. Quant à ce qui nous concerne, ce n'est pas cette expérience qu'on a. Nous, on a eu des gens qui étaient formés pour ça et qui ont tout le discours qui va avec, le discours de marketing qui va avec, puisque le mec, il nous dit « Sachez que je ne suis pas là pour vous contrôler, je suis là pour prouver que vous faites du bon travail ». C'est tout ça un petit peu au travers de cette histoire du puçage qui ressort, quoi. C'est vrai que c'est une technique de plus, voilà, qui peut paraître anodine. Finalement, dans la lignée de l'identification des animaux, aujourd'hui, elle est électronique, alors que là, avant, c'était juste des boucles qui étaient portées en pendentif sur les oreilles avec des numéros. Maintenant, il y a une puce qui est incrustée dans le pendentif. Voilà, c'est vraiment, qu'est-ce que vous faites chier, quoi, il n'y a pas de différence. Mais c'est fondamental, symboliquement. Ça souligne ce côté fondamental du compagnonnage qu'on peut avoir avec les animaux, et bien au-delà du domaine agricole.
Au pré avec sa mère, le poulain de 3 jours tangue sur ses pattes. La seringue pénètre sous la peau du cou. Injection rapide et indolore. Le vétérinaire vérifie son lecteur portable. Le numéro d'identification s'inscrit à l'écran. La puce est opérationnelle. Le lecteur transmet directement les données à l'ordinateur. Date de naissance, sexe, numéro des géniteurs, vaccination, allaitement, etc. Il sera désormais simple, en consultant les bases de données, d'assurer un suivi sanitaire rigoureux, de vérifier qui est le propriétaire du poulain et, en le scannant avec un lecteur portable, de l'identifier à tout moment. L'animal est entré dans le système. Il a le droit d'exister.
Parce que le contrôle, il est partout maintenant. C'est un peu la base des relations. Des relations, je veux dire, la relation avec l'administration, c'est une relation de soumission, voilà, tu vois, le chômeur qui va à Pôle emploi, il a intérêt à pas faire le malin, quoi, tu vois. C'est un sujet. Si tu veux, quelque chose qui était devenu, qui est très discutable, mais qui était devenu quelque chose autour de la solidarité ou de la redistribution, comme le chômage, dans une certaine mesure, les subventions agricoles, mais enfin, dans une toute petite mesure. Maintenant, c'est quelque chose qui permet... On ne parle pas de solidarité avec les chômeurs, c'est plus de la solidarité, quoi. C'est une espèce d'aumône qui fait que tu te tiens à carreau, hein. Donc là, ce n'est pas de la solidarité. Parce que l'idée de cotiser tous un peu pour celui qui n'a pas de boulot demain, bon, dans l'absolu, il n'y a rien à dire là. Si on veut être un peu humain, ça paraît être un peu correct, quoi. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. C'est-à-dire, on est tous dépossédés des prélèvements qu'on a. Et il y a des systèmes bureaucratiques qui utilisent cet argent pour rendre les autres sujets. Voilà. Ils font que, attention là, hein, on te donne des sous, c'est presque une faveur et t'as intérêt à faire un petit peu comme on te dit.
Et les aides donc sont liées au contrôle. Donc finalement, la vision de l'agriculture telle qu'elle est aujourd'hui, eh bien, c'est une vision, on pourrait presque dire mécanique, quoi, mécaniste en tout cas.
Vous êtes toujours sur Radio Sainte-Afrique, sur l'émission Tension Parasite et Courant Vagabond. Un petit retour plus près de chez nous, à Sainte-Afrique justement, avec Sabine et Marilou. Ces deux parents d'élèves vont nous parler du collectif Basse Élèves qui s'est constitué pour lutter contre le fichage des enfants dès 3 ans.
Eh ben moi, ça a démarré tout simplement qu'un jour à la sortie de l'école, il y avait des gens qui militaient et qui tractaient et qui donnaient des informations donc sur le fameux fichier Basse Élèves qui se mettait à l'époque en place dans divers départements en France. Et donc voilà, il y avait, on s'est réunis tous, pareil, dans un café. On a parlé de la problématique et on a décidé de monter un collectif.
Très concrètement, on nous a mis à jour au courant de cette éventualité de rentrer donc des données sur un support informatique, alors qui a pris divers noms, mais voilà, qui donc en tout cas devait être renseigné par les directeurs d'école. Donc c'est vrai qu'au niveau local, c'est le regroupement et l'information sous forme finalement d'alerte un petit peu à l'ensemble des parents de l'école qui a été au démarrage de la création.
Pour que les auditeurs y voient un peu plus clair, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots, même si ça va être compliqué, ce qu'est concrètement Basse Élèves.
Donc c'est une base de données. Alors pour expliquer ce que c'est, voilà, c'est au moment de l'inscription donc de l'enfant à l'école, donc ça commence dès 3 ans à partir de la maternelle. Le directeur, lorsqu'il procède à l'inscription, il rentre donc des données personnelles dans ce fichier informatique qui s'appelle donc Basse Élèves. Ces données sont renvoyées dans une autre base de données qui est centralisée, et donc c'est cette base de données qui immatricule l'enfant, c'est-à-dire qui va lui attribuer un numéro identifiant. Ce numéro identifiant est renvoyé, si vous voulez, dans l'ordinateur du directeur d'école. Et là, l'enfant, il est immatriculé pour très longtemps, en tout cas. C'était prévu au départ pour 45 ans. Après, ça a diminué un peu à 40 ans. Donc maintenant, avec tous les processus de traçabilité qui sont mis en place, on peut dire qu'on est fiché à partir des 3 ans et tout au long de la vie.
Et donc, il y a eu assez rapidement, effectivement, hein, une mobilisation pour justement que l'État revoie sa copie.
Il faut savoir que les parents n'ont jamais eu aucune information sur les données qui étaient obligés de donner, celles qui n'étaient pas obligées de donner, etc. C'est bien parce qu'on a bataillé que les parents ont réussi à être informés, mais je dirais les parents de notre époque, quand nous on y était. Je ne suis pas sûre que les parents actuellement qui soient au courant de ce que représente réellement Basse Élèves.
Moi, je dirais que ce qui me choque énormément dans ce dispositif-là de Basse Élèves, c'est qu'on prend effectivement des enfants à 3 ans, qu'on essaie dans cette base de données d'attribuer d'abord effectivement un identifiant qui va suivre l'enfant. Alors, un identifiant, c'est bien plus grave finalement que le contenu en tant que tel aujourd'hui de Basse Élèves, puisque l'identifiant, c'est ce qui va permettre de tracer tout au long de la vie, donc au moins scolaire et voire même au-delà, hein, sur le marché du travail et même peut-être avec d'autres finalités, ça va tracer un individu et tracer dans le sens où il sera toujours possible, bien sûr, de nous dire que certains éléments vont être retirés ou en tout cas mis de côté dans le dossier, avec quand même une certitude, c'est qu'une donnée informatique ne disparaît jamais, même si on croit qu'elle est mise à la corbeille, effacée, elle existe toujours parce qu'elle est stockée effectivement aussi ailleurs et qu'il n'est jamais possible de prouver que la totalité de l'information a disparu. Alors ça, c'est une première chose quand même qui est embêtante à mes yeux. Et c'est vrai que pour un enfant, partir effectivement avec une espèce de casier judiciaire, j'allais dire, dans lequel vont s'inscrire automatiquement tout ce qu'il a fait. Alors ça ne sera pas forcément en termes négatifs. Bien sûr qu'il peut y avoir des choses positives à l'intérieur. Pourquoi on note ça ? quelle est la finalité de ça? Et celui qui n'a pas ces compétences-là, qu'est-ce qui va lui arriver? Comment on dissocie, en fait, hein, le parcours d'un enfant avec des choses qu'on accumule dans son dossier, qui sera donc toujours lisible et accessible? Comment on va repérer celui qui n'a pas ou qui n'a pas grand-chose dans son dossier? Comment il va être considéré? Par qui, d'ailleurs? Il a été aussi, à un moment donné, question de même joindre, par exemple, un fichier médical. Qu'est-ce qu'on met dans un dossier médical? Est-ce que ce n'est pas des informations tellement confidentielles qu'elles n'ont rien à voir dans l'accessibilité, en tout cas, à d'autres professionnels, employeurs potentiels, pourquoi pas, mais aussi d'autres intervenants sociaux, etc. Il y a une problématique de fond qui est pourquoi on garde la trace, en fait, de tout ça? Et encore faudrait-il d'abord s'interroger sur quelles compétences on a envie de voir apparaître dans le fichier. Il y a une chose sur laquelle effectivement on n'a pas discuté là encore, c'est effectivement le fait que au départ ces fameuses compétences, elles ont quand même été décidées par l'OCDE avec effectivement donc une volonté européenne d'harmoniser les compétences en vue d'une employabilité. L'OCDE, c'est l'organisation donc européenne qui se réunit très très régulièrement et qui donc est, j'allais dire, l'organe central de décision de l'ensemble des politiques européennes, qui écrit des textes, des grandes directives en fait, qu'on appelle les directives européennes, et qui vont être ensuite traduites au niveau national, dans chacun des pays, par rapport effectivement à l'ensemble de ses propres lois internes au pays. La difficulté, c'est que quand on est élève, quand on est enfant, il y a quand même une grande différence. Est-ce qu'un enfant, ce n'est qu'un élève? Est-ce qu'on n'a pas possibilité d'imaginer que l'enfant, c'est autre chose qu'un élève, qui va devenir employable et qu'il faut rendre absolument employable? L'éducation nationale se positionne comment là-dedans? Elle est pourvoyeur d'employés futurs, de salariés futurs, ou est-ce qu'elle est beaucoup plus largement là pour l'éveil de l'enfant et non pas uniquement du formatage d'élèves? C'est vraiment, je pense, moi, le problème de fond qui remet en cause aujourd'hui, du coup, la totalité même du nouveau programme, de la refonte de l'école, etc. On peut relire complètement tout ce qui se passe autour de l'école.
Parce que, est-ce que vous pouvez nous faire un point aujourd'hui, concrètement, dans le Sud Aveyron, le fichier bas élèves, est-ce qu'il est mis en place dans beaucoup d'écoles?
Oui, il faut savoir que donc, toutes les écoles de l'Aveyron sont sous bas élèves, sauf une, c'est à Mont-Laure. C'est la seule école qui reste hors bas élèves. Au départ, c'est vrai qu'il y a eu, en 2007, on a fait beaucoup d'informations, on a fait des blocages de formation directeur pour pas qu'ils remplissent le fichier. Ça a tenu un temps, il y a des écoles qu'on résistait un petit peu, mais bon, pas très longtemps, parce que très rapidement, sous la pression de la hiérarchie, les directeurs et les directrices se sont soumis et ont rempli le fichier. Donc voilà, les pressions, elles étaient d'ordre financier, c'est-à-dire qu'on retirait sur le salaire du directeur d'école, donc la prime de direction.
Je voudrais quand même effectivement rajouter que les sanctions, effectivement, elles se sont traduites par des sanctions financières, mais on a quand même beaucoup eu de retours d'enseignants, dont évidemment on ne vous donnera pas les noms, mais qui ont subi des pressions bien plus importantes à mes yeux, qui sont de l'ordre psychologique tout simplement, puisque quand même on peut guère justifier que des enseignants soient appelés chez eux tard le soir par des responsables hiérarchiques, malgré le fait qu'ils pouvaient être soutenus par les parents. d'un autre côté, hein, pour effectivement résister à ce fichage. C'est vrai que les ultimatums, les coups de fil, les menaces à peine déguisées sur effectivement la carrière font que, je veux dire, on ne peut pas être, si on n'est pas psychologiquement préparé à ce genre d'arguments ou de situations, je ne vois pas comment l'enseignant pouvait résister longtemps.
Donc après, une fois que le collectif national s'est monté, donc c'était en 2008, sur toute la France, hein, y a eu quand même des directeurs qui ont résisté, etc. Et ça leur a mis des bâtons dans les roues à l'éducation nationale, ça leur a pas plu. Donc par la suite, lorsqu'un enseignant demande à être directeur d'école, en fait, il est soumis à des critères d'aptitude. Et l'un de ces critères, c'était, on leur demande, est-ce que vous êtes d'accord pour remplir le fichier base élève ? Donc si le directeur d'école n'était pas d'accord, eh ben, il n'avait pas son poste de direction. Voilà, ça continue actuellement.
Est-ce qu'il est possible pour vous de nous décrire un peu les moyens d'action qui ont été mises en place par votre collectif?
Premier niveau, ça a été peut-être effectivement d'aider quelque part les responsables, les directeurs d'école qui ne souhaitaient pas rentrer bas élèves à ne pas effectivement pouvoir le faire. Ça a fait effectivement pendant un certain temps, on va dire, un petit peu frein à l'ensemble de la mise en place du système, mais pas très très longtemps, puisqu'après, effectivement, par des moyens très détournés, l'inspection a réussi à obtenir des données, parfois avec des modes d'intervention qui ne passaient pas par le directeur, en fait, tout simplement, qui se passaient en tout cas de l'accord du directeur. Après, c'est au niveau des parents qu'il y a eu donc mobilisation et recherche donc d'autres modes de mise en œuvre de la résistance, hein, à ce fichage de nos propres enfants. Et c'est vrai que on a, dans un premier temps, rédigé des lettres d'opposition, hein, en faisant savoir en fait à l'inspection qu'on était opposé au fait que nos enfants soient fichés.
L'inspection mettait en place des formations donc pour bas élèves, donc tous les directeurs de l'Aveyron étaient convoqués tel jour à tel endroit pour avoir une formation sur comment remplir bas élèves. Donc avec le collectif, et ben on se rendait sur ces lieux de formation avec des pancartes, des tracts, etc. On essayait de faire venir la presse. Et on bloquait on appelait les blocages de formation. Et donc, on les empêchait de rentrer en leur expliquant pourquoi on voulait pas qu'ils rentrent. Et puis après, bon, il y avait quand même souvent deux, trois quarts de flics qui étaient là. Bon, bah, ça a tenu un temps. Mais bon, après, très rapidement, ils ont pu même faire, hein, les formations. Ils faisaient directement par Internet. Enfin, je sais pas comment ils ont procédé, mais ils ont pu faire les formations auprès des directeurs. Et donc, c'est par la suite, on a décidé de contacter des avocats, de porter plainte. Et donc, sur l'Aveyron, bah, on a eu quand même plus de 300 parents qui ont porté plainte. Le parquet a classé la plainte sans suite et actuellement, on a saisi un juge d'instruction. Le problème de la justice, c'est que c'est toujours très long.
Alors, vos enfants qui étaient à l'école à l'époque sont maintenant passés au collège. Et vous, en tant que parent d'élève, vous devez voir une évolution ou des différences?
Quand on arrive au collège, on a également un dossier d'inscription à remplir. Et alors, toutes les données qui avaient été retirées de bas élèves pour le primaire, c'est-à-dire profession des parents, le RIB, enfin plein de choses très, très personnelles, elles reviennent dès que l'enfant il est inscrit au collège. Il y a quand même un fichier des absences, un fichier du comportement, il y a un fichier sur le décrochage, sur les suivis, hein, sur le suivi de l'élève. Quand les fiches elles sont sorties, il y a tout. Hein, il y a depuis 2 ans tout ce que l'élève a fait comme connerie, en absence, en retard, si c'est justifié, pas justifié, les parents s'ils sont d'accord, pas d'accord. Enfin voilà, il y a vraiment plein d'informations. Alors comme on dit, le problème c'est pas tant qu'ils aient besoin de ces informations, c'est après qu'est-ce qu'ils en font et pourquoi ils les gardent. Donc c'est difficile de résister à ces processus parce que si vous voulez inscrire par exemple, si votre enfant il veut aller à telle école, telle fac, après le lycée, de toute façon il est obligé de passer par ces procédures, il est obligé d'avoir un numéro identifiant national, il est obligé d'être fiché. Et en fait ils ont procédé, hein, ils sont descendus, c'était université, secondaire et puis ils sont arrivés au primaire, quoi. Quand on a vu ça arriver dans dans le primaire, ça nous a pas plu du tout parce que garder une traçabilité sur des petits, c'est quand même plus de droit à l'oubli, c'est les marquer quand même, ils traînent avec eux un bagage qui est lourd. C'est Albert Jacquard qui a dit quand il a été alerté sur ce sujet que c'était l'avatar du casier judiciaire, qu'on est dans une société du numérique et de l'informatisation à tout va.
On est parti pour augmenter ce genre de contrôle. On le voit bien avec les passeports numériques, on le voit bien avec les cartes d'identité, on le voit bien avec les cartes santé, où il y a toujours des cartes à puce avec des informations, biométriques. Nous ne sommes pas là pour savoir si c'est trop ou pas assez. Nous sommes avant tout des industriels et nous mettons en place les systèmes, les équipements pour servir la police, la justice et l'armée.
Lutter contre le fichage, c'est pas être contre l'informatique et ce n'est pas non plus être contre les nouvelles technologies. On peut les utiliser, il y a certainement des choses très intéressantes à faire, mais on ne doit pas les utiliser n'importe comment.
Une puce électronique et un scanner, c'est la nouvelle version du registre de présence de la responsable de cette garderie.
Le matin, avec l'appareil, je scanne les enfants. L'heure d'entrée s'inscrit et le soir, l'heure de sortie s'inscrit aussi. Donc ça évite de devoir faire des papiers.
Les salons le montrent bien, les technologies RFID sont OK, les systèmes informatiques sont prêts. Reste à savoir quelle sera la réaction des consommateurs face à ces puces RFID. Et là, il faudra une bonne dose de persuasion de la part des distributeurs et de leurs fournisseurs.
Très dur à avaler, c'est quand même de voir tout ce corps enseignant qui ne se pose pas les bonnes questions, c'est vrai qu'ils y subissent de la pression comme tout le monde, mais ils ne se posent pas de questions, ils appliquent ce qu'on leur demande parce que c'est qu'on est fonctionnaire, on nous demande d'obéir. Donc, comme réponse, c'est quand même un peu limite, hein, surtout quand on connaît l'histoire, qu'on sait bien que les horreurs et que la guerre ou que la paix, hein, ce ne sont pas des choses acquises, hein, la société nous le montre tous les jours, hein, que l'informatisation et devoir remplir systématiquement des cases fait que on se pose plus les questions puisqu'il faut remplir les cases. Hein, et donc, on ne va pas chercher qu'est-ce qui pose problème et comment on peut remédier au problème. Mais on va rentrer tout ça dans des cases. Et c'est la machine qui va décider du devenir de l'élève, quoi. C'est toujours le dernier mot. Oui, mais nous, on fait ce qu'on nous demande, il nous faut obéir. Et voilà, ça serait bien qu'on sorte un peu de ces logiques.
Ces trois rencontres ne sont qu'un maigre panorama de ce que peut représenter l'emprise du contrôle social aujourd'hui. Car le contrôle s'applique à l'ensemble des sphères de notre société. Le contrôle social peut être impulsé par l'ordre, l'État, l'administration et être matérialisé, formalisé par des lois, des répressions policières ou des sanctions pénales. Mais n'oublions pas que le contrôle social peut aussi parfois se développer au cours de nos interactions de la vie quotidienne, au sein de groupes dans lesquels nous évoluons, tels que la famille ou les amis, voire même au boulot.
Et voilà, chers auditeurs, auditrices, ce troisième opus de Tension Parasite et Courant Vagabond, consacré au contrôle social, touche à sa fin.
On remercie les assistantes sociales enragées, refusant d'être des agents de contrôle de l'État et qui n'acceptent pas d'appliquer des directives sans mot dire.
On remercie aussi tous les membres du collectif Faut pas pucer, ainsi que tous les éleveurs et paysans de France et de Navarre qui résistent pour que leurs bêtes ne deviennent pas qu'un numéro et qui préfèrent être avec leurs animaux plutôt que derrière un ordi.
Un chaleureux remerciement aussi à tous les professeurs et parents d'élèves du Sud-Aveyron et bien au-delà qui refusent que les individus soient fichés dès 3 ans.
Nous avons conscience que le contrôle social s'étend bien au-delà de ces trois témoignages. Il s'immisce dans bien d'autres domaines. Il n'y a qu'à voir les caméras de vidéosurveillance qu'on va nous mettre au-dessus de la tête place de la mairie, ou encore toute la paperasse administrative que nous demandent les institutions pour la moindre démarche. À ce rythme-là, on se demande à quand la puce sous-cutanée pour tous.
Une heure passe trop vite pour donner la parole à la multitude de collectifs en lutte contre les dispositifs du contrôle social. On pense notamment aux assemblées de précaires, aux collectifs de cafards qui s'organisent collectivement pour débloquer des dossiers litigieux dans les caisses d'alloc ou chez Pôle emploi.
On pense aussi aux démonteurs de caméras, aux contrôleurs qui démissionnent, à tous ceux qui n'acceptent pas d'être pucés, filmés, normés, fichés, fliqués. Mais ce sera pour une autre fois. En attendant, avant de nous quitter, partons à l'aventure pour un hallucinant voyage dans la quatrième dimension.
Et on se retrouve le mois prochain pour un voyage chez nos amis irlandais de Roosport, qui ne se laissent pas envahir aussi facilement par une multinationale pétrolière nommée Shell. Salut!
Salut et bonne écoute sur Radio Sainte-Afrique. Et comme dirait mon papy, peser le cochon tous les jours ne l'a jamais fait grossir.
Mmh. Nous sommes transportés dans une autre dimension. Un voyage dans une contrée sans fin dont les frontières sont notre imagination. La quatrième dimension.
Un futur pas forcément le nôtre, mais qui pourrait l'être car il met en scène un monde qui plonge ses racines dans un type de société dont nous avons connu bien plus d'un exemple. Il est modelé selon les normes des dictatures de tout poil qui ont marqué du poids de leurs bottes les pages de l'histoire, et cela depuis la nuit des temps. Il a ses raffinements d'ailleurs, une technologie avancée qui permet à ce monde une démolition plus subtile des libertés de l'homme. Pourtant, comme tous les États totalitaires qui le précèdent, il a à la base une règle d'or. La tolérance est ennemie et la connaissance est menace. Voici M. Romney Wadsworth, coupable, aux yeux d'un État hyperfonctionnel, de ne pas avoir d'utilité. Il est pourtant un citoyen de cet État, mais son grand tort est de penser et de garder son individualité. Le voici devant ses juges, dans l'hallucinante ambiance de la quatrième dimension.
Wadsworth, Romney, accusé de décadence.
Faites comparaître le citoyen décadent.
Wordsworth Romney, conclusion de l'enquête sur votre personne, tendance à tomber en désuétude, le saviez-vous?
Oui, monsieur.
Vous avez été placé sous observation pendant la période probatrice de 2 ans et il s'avère que vous êtes désormais hors service. Il reste donc à établir un verdict et prononcer la sentence en conséquence, avez-vous compris?
Parfaitement, monsieur.
Vous occupez quelle place dans notre régime?
Je suis bibliothécaire.
Monsieur Wordsworth, on me dit que vous avez eu un avocat et qu'on vous a conseillé sur la marche à suivre. Pourtant, je ne suis pas encore convaincu que vous ayez compris le propos de cette audience. Je vous ai dit que les enquêteurs vous ont classé hors service, c'est-à-dire à proscrire. Conclusion qui entraîne de graves implications, vous en êtes conscient? Bon, alors si vous avez compris, je vous redemande quel est votre rôle et quel est votre métier.
Je suis bibliothécaire, monsieur. C'est ça le métier que je fais, c'est pourquoi j'existe. Si vous pensez maintenant que ça ne sert plus à rien, libre à vous.
Le terme serait à clarifier, peut-être. Oui, et monsieur Wordsworth pourrait préciser également si son « vous » englobe l'appareil de l'État.
Je m'adresse à lui aussi bien qu'à vous.
Et vous persistez à déclarer que votre métier est d'être bibliothécaire, c'est bien cela?
Absolument.
C'est là un passe-temps qui est en relation avec les livres. De faire le bibliothécaire.
C'est une profession.
C'en était une, et étant acquis qu'il n'y a plus de livres, monsieur Wordsworth, il n'y a donc plus de bibliothèque, et par la même occasion, plus du tout lieu d'avoir recours à un bibliothécaire. Vous êtes obsolète, monsieur Wordsworth.
C'est ridicule. On ne peut dire cela de personne.
Vous êtes dépassé, si vous préférez. Vous êtes un anachronisme, une espèce de vieux fantôme.
Ce serait plutôt pour vous un rappel à l'ordre. La preuve qu'on ne peut détruire toute forme de réflexion.
Un cloporte, une vermine rampante, voilà ce que vous êtes. Une horrible et ignominieuse créature qui n'a pas de place ni de raison d'être ici.
Racontez ce que vous voulez, ça m'est égal. Et j'existe. Et du fait que j'exprime une idée à haute voix, cette idée survivra, et même après ma mort, rien ne pourra l'étouffer.
Vous ne pouvez proposer que rêveries fumeuses et rien de concret, et l'État n'a que faire d'individus de votre espèce. Oh,